Perret sont des acteurs de la criminalité ordinaire qui renvoient bien aux faits divers. Deuxième point, justement. Après les évocations poussées au noir qui reconduisent la thèse donc de la morbidité de la ville, nous avons là un deuxième caractère de l'étude de crime, une évaluation indirecte de la place que le fait divers occupe dans l'imaginaire collectif, de son retentissement dans l'opinion et de son traitement médiatique. Avec beaucoup d'ironie, l'auteur invite ici à la déprise des clichés en jouant subtilement sur les codes de la représentation, notamment au chapitre 10, où le bout de causerie consacré aux crimes impunis permet d'égrener avec brio les constituants de la fiction standardisée avec son quota de mystère et de terreur. Après le meurtre de Camille, cette sinistre comédie décrite avec force détail par un auteur habile à jouer avec les codes du roman populaire, l'événement connaît toutes les étapes de la circulation sociale du fait divers, du faux témoignage, des canotiers, des fameux témoins oculaires qui n'ont rien vu mais qui sont prêts à témoigner spontanément, du faux témoignage au récit dans les journaux en passant pour le procès-verbal à chaud et les conversations de bureau. J'ai juste retenu une phrase significative du chapitre 12, la malheureuse mère, la veuve inconsolable, l'ami noble et courageux, rien ne manquait à ce fait divers qui fit le tour de la presse parisienne et qui alla ensuite s'enterrer dans les feuilles des départements. Zola ne parlera pas de ça, il en fait le procès, il liquide ce traitement habituel du fait divers par la littérature et le journalisme. Et en incluant dans son échantillonnage de la petite bourgeoisie, va plus loin, en incluant dans son échantillonnage de la petite bourgeoisie un commissaire de police à la retraite et un employé supérieur de la préfecture de police, tous deux absolument incapables à un moment de suspecter les criminels qu'ils côtoient, l'écrivain montre comment le vrai est enfoui sous une semblance généralisée qui fait obstacle à sa lisibilité. La scène de la main vengeresse au chapitre 27, quand la paralytique essaie désespérément de tracer le nom des coupables sur la toile cirée, c'est une scène d'ironie tragique, hein, peut être interprétée comme le symbole de la difficulté à faire advenir la vérité dans un univers balisé par la doxa, saturé par les clichés et occulté par des fictions déjà là, disponibles à la demande. D'où mon troisième point. Pour les invités du jeudi soir, que leurs habitudes de vie portent de toute manière à l'inconscience, le crime de Laurent est inconcevable. L'étude de crime, au sens le moins attendu, relève alors de la compétence de l'écrivain. Lui seul pose les tenants et les aboutissants de la terrible histoire, lui seul fait entendre au lecteur le récit muet de ce meurtre et le décrypte. Avant d'expliquer le roman expérimental, nous devons évoquer le dernier caractère paradoxal de l'étude de crime, son indétermination. La difficulté à l'objectiver, le défi herméneutique qu'il soulève. Si l'on y songe, le crime est toujours construit. Il n'existe que par des discours qui se croisent et se renforcent mutuellement. La littérature, le journalisme, la criminologie, la statistique, la médecine, le droit. Mais la multiplication tant des hypothèses scientifiques que des représentations courantes ne sert qu'à bien recouvrir le point de vertige que le crime dévoile forcément, ces vérités fondamentales qui touchent à la vie, à la mort, aux désirs, aux pulsions, aux normes, aux interdits, à la transgression, circonstances. En fait, le crime est toujours un événement incompréhensible, un fait opaque, dont les mobiles et les circonstances ne sont jamais transparents. Une sorte de point aveugle et une histoire indicible. Dans son roman, Zola donc prend en compte les thèses et les représentations en vigueur, en les stylisant, quand il se ressaisit du roman noir et des images du Paris morbide, ou en ironisant à propos du fait divers, mais il va plus loin et propose une explication déterministe, dont il nous faut maintenant examiner les principes, et ensuite donc en la deuxième partie. Le roman expérimental, je parle du texte de 1879, placé en tête du recueil du même nom, contient des idées et des remarques qui renvoient plus exactement à la fin des années 60, et au prototype de Thérèse Raquin. Si la méthode, je cite, si la méthode expérimentale conduit à la connaissance de la vie physique, elle doit conduire aussi à la connaissance de la vie passionnelle et intellectuelle. Ce n'est là qu'une question de degré dans la même voie. Un même déterminisme doit régir la pierre des chemins et le cerveau de l'homme. L'homme métaphysique est mort. Tout notre terrain se transforme avec l'homme physiologique. Ces citations, elles continuent celles de la préface de 1868, en particulier dans le premier volet de sa présentation. Dans Thérèse Raquin, j'ai dû étudier les tempéraments et le monde des caractères. Là, le livre entier, j'ai choisi des personnages, souverainement dominés par leur mère, Alexandre. Au premier passage, page de prix. Et tandis qu'en 1879, Zola produit un essai en bonne et due forme, et non pas une préface à Nana, en 1868, nous disposons d'un dispositif métatextuel qui relève de l'explication de texte et pas seulement de la déclaration d'intention. Et ce lien est vraiment précieux, parce que jamais la distance ne sera aussi mince entre l'explication et l'application. Ce qui fait tout l'intérêt de Thérèse Raquin et sa préface. Alors ce qui trouble un peu notre lecture, c'est qu'à l'époque, Zola court après le succès. Il fait feu de tout bois, et il n'a pas peur de la polémique, donc ça rend évidemment la lecture de ce roman plus compliquée. On cite souvent d'ailleurs le passage de la lettre du 29 mai 1867 à Anthony Malabrègue, que j'ai reproduit également. Je suis très content, page 3, je suis très content du roman psychologique et physiologique que je vais publier dans la revue du 19e siècle. Ce roman, qui est écrit presque entièrement, sera coup sur ma meilleure œuvre. Je crois m'y être mis, cœur et chair, etc. C'est un passage intéressant parce qu'il témoigne à la fois de l'importance de cette œuvre pour le premier Zola, qu'il avère l'allégation scientifique et qu'il est tenté aussi par. Que Zola est tenté, on voit, par la stratégie du passage en force. C'est cette opposition frontale, quoi, l'inflexion polémique du discours d'escorte et la provocation du vocabulaire qui compromettent la scientificité du programme. Zola, qui a fait le choix de l'expressionnisme, ne veut pas se priver de la charge sémantique dont sont porteurs des mots et des expressions comme « fatalité de leur chair »,« détraquement »,« amour cruel ». C'est un style à l'emporte-pièce, évidemment, que l'on retrouvera dans le texte et qui multiplie les intensifs et les connotations morales. C'est ça qui trouble notre perspective de lecteur. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. On peut prendre au hasard, je ne sais pas, le début du chapitre 28, par exemple, et on lit ce style étrange. Depuis 2 mois, Thérèse et Laurent se débattaient dans les angoisses de leur union. Ils souffraient l'un par l'autre, alors la haine monta lentement en eux, ils finirent par se jeter des regards de colère, pleins de menaces, sourdes. La haine devait forcément venir, ils s'étaient aimés comme des brutes, avec une passion chaude, toute de sang. Puis, au milieu des énervements du crime, leur amour était devenu de la peur, ils avaient éprouvé une sorte d'effroi physique de leurs baisers. Aujourd'hui, sous la souffrance que le mariage, que la vie en commun leur a causée, ils se révoltaient, s'emportaient, ce fut une haine atroce. Aux éclats terribles, ils sentaient bien qu'ils se gênaient l'un l'autre, ils se disaient qu'ils mèneraient une existence tranquille s'ils n'étaient pas toujours là face à face. Quand ils étaient en présence, il leur semblait qu'un poids énorme les étouffait, etc. Bon, je passe sur ce style à l'emporte-pièce, ce porridge stylistique que produit la conjonction de la thèse déterministe, du discours de la réprobation morale, et de la rhétorique de la culpabilité, pour ne pas perdre, je crois, le bénéfice de l'inscription de cette étude de cas dans des catégories poétiques du récit à sensation de la tragédie du drame, tout simplement. Zola ne renonce à rien, quoi. Il dit ce vocabulaire, il est en usage, ben je vais le reprendre. Et la nouveauté se glissera dans les petits étonnements, ou les gros étonnements que ressentiront les lecteurs à voir ce vocabulaire usuel, d'ailleurs un peu trop insistant pour être pris à la lettre. Donc je pense qu'il y a quelque chose à... Il faut réfléchir un petit peu à ça, quand on explique ce texte avec les élèves, justement, l'écart temporel nous permet d'interroger, mieux que ne le faisaient les contemporains, cette stylistique. Cette bœuf, finalement, avait vu juste quand, à des premiers lecteurs, quand dans sa lettre du 10 juin 1868, il reprochait à Zola d'avoir mobilisé un appareil, dit-il, un appareil de remords qui n'est qu'une transformation, une transposition du remords moral ordinaire, du remords chrétien, et une sorte d'enfer retourné. Puis l'abus des mots vautrés, brutal. Bon, c'est surtout le deuxième mot, brutal, qui est répété plus de 30 fois dans le roman. Mais quand même, c'est un texte qui est très écrit. Et Thérèse Raquin. Et il faut, je crois qu'il ne faut pas suspecter Zola de faut pas suspecter Zola de confusionnisme, de maladresse ou d'inadvertance. C'est toujours le principe de sympathie. Voilà. Hein. S'il écrit comme ça, c'est que il veut mobiliser plusieurs registres et il sait aussi faire preuve de beaucoup d'ironie. Surtout quand il s'agit de satiriser les comportements des personnages. On l'a vu. La démonstration est facile relativement au milieu de la petite bourgeoisie. Après le crime, c'est surtout l'évolution de Thérèse qui permet à l'auteur de discréditer la casuistique du sentimentalisme, de dénoncer l'influence délétère du roman, je renvoie au chapitre 16, ou de la religion, je renvoie au chapitre 29. La comédie de la veuve éplorée, repérée par Laurent et par Madame Racca, complète le procès de l'idéalisme et renvoie à l'impératif de démystification que s'est fixé Zola. C'est Thérèse qui est le personnage expérimental par excellence. Et dans ces deux versants, constitution et démontage du personnage social, d'une part, proposition relative au corps et au désir sexuel, d'autre part, qui pulvérise les représentations traditionnelles des passions et annonce les découvertes de Freud et de la psychanalyse, le principe de plaisir, la pulsion de mort, le transfert, les psychoses hallucinatoires. J'ai rapproché notre lecture du préambule épistémologique du célèbre article de 1915 de Freud sur les pulsions et le destin des pulsions, page 3, dans lequel Freud examine les présupposés de l'attitude scientifique, et j'ai trouvé que ce préambule créditait indirectement la démarche zolienne en rappelant le statut conventionnel des relations établies par l'opérateur entre les phénomènes et les concepts. Je cite Freud. « Nous avons souvent entendu formuler l'exigence suivante. Une science doit être construite sur des concepts fondamentaux clairs et nettement définis. En réalité, aucune science, même la plus exacte, ne commence par de telles définitions. Le véritable commencement de l'activité scientifique consiste plutôt dans la description de phénomènes qui sont ensuite rassemblés, ordonnés et insérés dans les relations. Ce sont les relations qui importent. Dans la description, déjà, on ne peut éviter d'appliquer au matériel certaines idées abstraites que l'on puise ici ou là, et certainement pas dans la seule expérience actuelle. De telles idées, qui deviendront les concepts fondamentaux de la science, sont dans l'élaboration ultérieure des matériaux encore plus indispensables. Elles comportent d'abord nécessairement un certain degré d'indétermination. Il ne peut être question de cerner clairement leur contenu. Aussi longtemps qu'elles sont dans cet état, on se met d'accord sur leur signification en multipliant les références au matériel de l'expérience auquel elles semblent être empruntées, mais qui en réalité leur est soumis. Elles ont donc en toute rigueur le caractère de convention. Encore que tout dépende du fait qu'elles ne soient pas choisies arbitrairement, mais déterminées par leurs importantes relations au matériel empirique. Ces relations, on croit les avoir devinées avant même de pouvoir en avoir la connaissance et en fournir la preuve, etc. Très bonne définition de la science, de la démarche scientifique. C'est très exactement celle que suit Zola. Ce qui l'intéresse, c'est les relations entre les concepts qu'il a choisis. L'innovation littéraire passe par l'utilisation de matériaux existants. Elle part du connu pour aller vers l'inconnu. Elle procède pour se faire à des associations inédites. C'est la différentielle de nouveauté dont parle Bachelard. Aussi bien d'ailleurs Bachelard, pour prendre un philosophe contemporain, parce que c'est la mode, Alain Badiou. Alain Badiou, il insiste en Être et l'événement sur la charge d'indiscernable incluse dans toute vérité, sur laquelle, en tant que critique, nous avons le devoir d'enquêter, non seulement en évaluant le rapport de l'œuvre avec ses constituants directs et indirects, mais dans l'encyclopédie du temps, mais en insistant également sur son potentiel herméneutique, prédiction ou véridiction. En fait, les deux vont de pair. Dans l'introduction de l'édition GF, j'ai consacré une page à cette question des pulsions, par exemple, traitée par l'écrivain proto-freudien, et on pourrait aussi convoquer l'érotisme de Georges Bataille, que je fais, moi, quand j'explique ce texte, hein, je me sers un peu de l'amour à mort, qui conduit les deux protagonistes à l'accomplissement de leur destinée lors de la scène finale qui rétablit la continuité perdue après le meurtre de l'autre, représenté par Camille. Zola, mythographe, se saisit de l'amour-passion, d'Eros, opposé à Agapé, et il n'en néglige aucun aspect. Il évoque un désir pleinement sexualisé, et il adopte, pour reprendre une citation du début du livre de Bataille, le point de vue d'où ressort l'unité de l'esprit humain, dont les possibilités s'étendent de la sainte au voluptueux. Il suffit de lire le très beau passage du chapitre 7, que j'ai aussi repris dans mon anthologie, où Thérèse apparaît à la fois comme une grande amoureuse et comme une sainte, transfigurée par l'amour. Thérèse souple et forte le serrer, renversant la tête en arrière, et sur son visage couvrait des lumières ardentes et des sourires passionnés. Monsieur, monsieur, me disent, mais c'est une madone. Oui, oui, c'est bien une madone, effectivement, et aussi, éventuellement, une putain. Cette face d'amante, c'était comme transfigurée. Elle avait un air fou et caressant, les lèvres humides, les yeux luisants, elle rayonnait. Bon, ben voilà. La jeune femme, tordue et ondoyante, était belle du côté étrange, tout d'emportement. On eût dit que sa figure venait de s'éclairer en dedans, que des flammes s'échappaient de sa chair, et autour d'elle, son sang qui brûlait, ses nerfs qui se tordaient, jetaient aussi ainsi des effluves chaudes, d'un air pénétrant et acre. Au premier baiser, elle se révéla courtisane. De la sainte au voluptueux, on a bien une continuité sur laquelle tout le livre de la Gloire des Batailles est construit.
Toute la culture.
Très belle prédiction, partout là. Par un crescendo bien étudié, qui conduit ainsi de l'euphorie et de l'euphorie à la transgression, à la dépossession et à la mort. Zola réalise effectivement une expérience au bord de laquelle chacun de nous se tient, mais qui n'a de sens que par l'excès qui la mère. Il m'a semblé que la stratégie de l'auteur consistait alors à humilier le vocabulaire courant de l'idéation et les métaphores de la vie quotidienne, pour reprendre l'expression de Lakoff et Johnson, avec leurs analogies contraintes, pour faire prédominer celui des sensations et des réactions organiques. Les évaluations morales et les notations psychologiques sont prises dans le procès d'énonciation, le mot procès étant à prendre dans les deux sens linguistiques et juridiques. Et elles deviennent des catéchrèses. Dans Thérèse Aquin, il y a beaucoup de catéchrèses. C'est-à-dire des façons de s'exprimer qui sont généralement recouvertes par des métaphores vives et des tournures qui réussissent à matérialiser les passions et les états mentaux. Prendre l'exemple de la nuit de noces au chapitre 21, quand le couple commence à vivre dans l'étrange réalité des retrouvailles impossibles. Le chapitre est assez long, presque bavard, pourrait-on dire, sauf qu'en exploitant le ressassement, il exprime l'inanité du langage pour faire place à une évidence plus massive, la pensée obsédante du meurtre. C'est le passage qui suit. Malgré eux, je ne le relis pas, vous pouvez le parcourir les yeux si vous voulez, tandis qu'ils prononçaient des mots vides, ils devinaient les pensées qu'ils cachaient sous la banalité de leurs paroles. Là, il y a vraiment un travail exploratoire de la part du romancier naturaliste. Le recours au discours direct et la multiplication des didascalies vont accroître l'intensité dramatique d'une scène qui va montrer que les personnages ne s'appartiennent plus. Je crois que c'est ce que Zola a voulu exprimer en parlant de brutes humaines. Du latin brutus, lourd, pesant, une présence massive, de même que le corps vient du latin corpus, qui désignait, je le rappelle, le corps mort, le cadavre, la charogne, par opposition à l'âme, anima. Et le corpus élargissait une ancienne racine indo-iranienne qui voulait dire la forme. Brut, ça veut dire originellement qu'il n'a pas été façonné par l'homme. Et ça renvoie à l'archaïque. Et on sait que Zola est vraiment le romancier archéo-freudien par excellence. Et j'aurais presque envie d'extrapoler en parlant d'art brut, au sens de la tendance de l'art moderne. Produit un art brut. Pour Zola, les passions et les émotions, autrement dit les fatalités de la chair, ne représentent pas une substance. Elles ne peuvent donc être qu'observées. Et cette observation, elle est systématique, elle est inlassable, elle est vertigineuse, elle est très suggestive. Elle n'est pas moins soutenue dans son ordre qu'une spéculation métaphysique. Partant du postulat matérialiste de la continuité physiologique des impressions aux états mentaux, et plus généralement de l'existence d'un monde unique, où l'homme et son milieu font corps, il mobilise essentiellement les ressources de la description, non pas comme une simple technique littéraire, mais comme une ontologie, parce que rien n'existe qui ne peut être montré, et que seul ce qui est montré existe. S'il y a bien là un réductionnisme, il est de nature épistémologique. Je rappelle la définition didactique du réductionnisme. Réduction systématique d'un ordre de connaissances à un autre, généralement, plus formalisé. Woodman qui dit « Réduire un système à un autre peut constituer une contribution authentique à l'effort de comprendre les interrelations entre versions du monde. » Et encore une fois, la démarche est rigoureuse. Elle ne se contente pas de passer en revue les idées reçues, de saper l'idéalisme, elle mobilise les moyens de l'art, le roman, pour étayer l'hypothèse moniste. L'analyse du mécanisme humain est ici l'essentiel. La difficulté, si vous voulez, c'est de concilier la précision et l'étendue. Mais Zola ne s'en sort pas trop mal quand on examine, pour prendre un exemple, le phénomène de l'hallucination. Partant de la définition précise Quand on donne esquirole, je rappelle la définition d'esquirole, un homme en délire qui est la condition intime d'une sensation perçue alors que nul objet extérieur propre à exciter cette sensation n'est à portée de ses sens et dans un état d'hallucination. Partant de cette définition d'esquirole, le romancier travaille dans plusieurs directions. Il explore le domaine du rêve nocturne. Il postule un fonctionnement de l'imagination en rapport avec la mémoire. Et concernant Laurent, il convoque aussi la thèse de l'hallucination créatrice. Le chapitre 17 est exemplaire de la méthode adoptée. Partant d'un effroi d'enfant inexplicable, imprévu, d'une angoisse qui se nourrit de perceptions tronquées, le personnage en vient par étapes au délire et à la psychose. D'un vague malaise commun et parfaitement identifiable, l'auteur achemine le personnage et surtout le lecteur jusqu'à l'apparition d'un fantastique sombre avec la scène du revenant sur la base du souvenir de la morgue. C'est le souvenir de la morgue qui produit l'hallucination. Je cite « Le cadavre lui tendait les bras avec un rire ignoble en montrant un bout de langue noirâtre dans la blancheur des dents. » J'oserais dire que la délicatesse subtile, délicatesse, le mot est utilisé par Zola au chapitre 16. Il se fit en eux un travail sourd qu'il faudrait analyser avec une délicatesse extrême, si l'on voulait remarquer toutes les phases. Cette délicatesse, donc, subtile des transitions psychophysiologiques, est parfaitement assurée pour garantir la vraisemblance du cas clinique. Je rappelle la science du lit, pour renouer avec l'étymologie. Alors, il faut relire tout le chapitre pour apprécier la manière par laquelle le délire et le fantastique se glissent dans l'hyper-réalisme de la chair, pour reprendre l'expression de François Dagonier, citée par Jean-Louis Cabanès dans son livre le plus récent, La fabrique des valeurs dans la littérature du 19e siècle, dont la quatrième partie est consacrée à la poétique de l'incarnation. Les remarques sur le corps des personnages, sur la peau en particulier, sont très fécondes. Si l'on y songe, la cicatrice, un autre exemple que Camille inflige à Laurent, renouvelle la marque d'infamie qui permettait, avant 1832, date de son abolition en France, de reconnaître un criminel. Que l'on pense à la fleur de lys imprimée sur l'épaule de Milady, qui permet à D'Artagnan de reconnaître en elle une empoisonneuse déjà punie dans le passé pour ses crimes. Je cite, « La morsure de Camille était comme un fer rouge porté sur sa peau. » Chapitre 13. « La cicatrice, elle figure alors le stigmate, on va prendre l'expression de Hoffmann, le stigmate comme rupture de la norme, un signe sur lequel le personnage marginal va s'interroger selon un processus ultérieurement décrit par Hoffmann, grand sociologue, qui affecte à la fois ses relations avec autrui et son identité. L'absence de marque lisible de la culpabilité n'efface évidemment pas le crime. La morsure et la cicatrice permettent à Zola d'inscrire et de manifester l'acte et ses conséquences dans la chair vivante du criminel, dans son moi-peau, pour reprendre un concept de l'idée dans yeux, à partir d'une brèche qui brouille la distinction entre intériorité et extériorité. Thérèse avait contemplé longuement le coup de taureau de Laurent, large et court, gras et puissant, sorte de surface bombée et caractère sexuel secondaire. Camille enfonce ses dents en emportant un morceau de chair, il fait un trou. Au chapitre 13, l'auteur établit pour la première fois l'équivalence symbolique entre le meurtre et l'entaille. Une relation étroite est désormais nouée entre le mort et le vif. La morsure est explicitement commuée en stigmate et la scène est décrite comme un rituel. Ensuite, l'auteur tire parti de l'inquiétante étrangeté de la cicatrice. Au chapitre 17, 18, 20, 21, 24 et jusqu'au dénouement, puisque lorsque Thérèse s'affale, c'est sur la cicatrice, les lèvres viennent porter sur la cicatrice de Laurent. Selon les besoins, donc, la plaie s'anime, elle se colore, elle devient tache ou elle est un trou dans lequel il semble qu'un doigt puisse s'enfoncer. Chapitre 21. Et le misérable tendait son cou qui le brûlait. D'ailleurs, le mot misérable peut évidemment se référer au sens encore présent d'infâme, sur lequel d'ailleurs Victor Hugo avait lui-même hésité. Et le misérable tendait son cou qui le brûlait. Il désirait que Thérèse le baisât sur la cicatrice. Il comptait que le baiser de cette femme apaiserait les 1000 piqûres qui lui déchiraient la chair. Donc, ce passage, je l'ai reproduit également dans l'anthologie. Il est évident que tout ce que veulent refouler les amants s'aiguille justement vers la brèche, vers cette brèche qui est aussi un motif fantastique, ben, de ce fantastique clinique, pour reprendre l'expression de Peter Pan-Marquet, rendu possible par la mutation du regard scientifique et du discours sur le corps à la fin du XVIIIe siècle, et surtout au XIXe siècle. Voilà, vraiment quelques points sur lesquels je vous ai insisté, mais je conclue mon exposé en peut-être insistant sur la passion de l'objectivité que Zola partage avec les savants de cette époque, qui lui permet de refonder, en partant des études physiologiques et de romans expérimentaux, un art poétique qui est encore trop souvent confondu à l'époque avec un catéchisme moral régi par l'équivalence didactique du beau, du bien et du vrai. Zola avait à profit un moment particulier dans le développement des sciences expérimentales qui, en renouant avec le matérialisme enchanté du XVIIIe siècle, admet que la vérité-fiction puisse aller de pair avec la vérité-fonction. Et que l'extension de l'expérience clinique puisse se produire dans un champ discursif dont la littérature non seulement n'est pas absente, mais qu'elle anime à sa manière, qu'elle proroge et exalte, dont elle abuse, en quelque sorte, en se défiant par avance d'une neutralité qui fait courir le risque de l'insignifiance. Selon une maxime de l'ancien droit, qui pourrait servir de devise au naturalisme, abusus non tollitus sum, l'abus n'exclut pas l'usage. Zola, comme le montre Thérèse Raquin, il maximise les opportunités de la conjoncture pour formuler ses propres conjectures. Celles-ci ne sont pas des commentaires passifs ou des analogies contraintes qui renouvelleraient seulement par un vocabulaire médical de surface le tableau classique des passions, prenant acte du renouveau de l'empirisme et de la réorganisation en profondeur des structures qui régissent le discours scientifique. Zola, au lieu de produire un commentaire évasif ou allusif qui témoignerait d'une incapacité de la littérature à se renouveler en cette occasion, célèbre au contraire les pouvoirs de la fiction en montrant qu'elle peut aller au moins aussi loin dans le genre d'investigation qui s'impose. Zola, dans sa préface, allègue la curiosité du savant, prétend avoir mené une étude physiologique, et parle aussi, sans réticence particulière, il ne faut quand même pas l'oublier, de livres, de romans d'analyse et d'œuvres. L'auteur a conscience de l'originalité d'une démarche artistique et littéraire, et il sait qu'il a produit un petit chef-d'œuvre, qui n'a absolument rien à voir avec les indiscrétions de boudoir, griffées au passage, et les romans de crime du genre de la Vénus de Gordes, qui pâlissent de la comparaison. Du scientifique au littéraire, le croisement, voire la fusion des cadres de référence sont donc patents, et produisent ce que Nelson Goodman appelle une version correcte, à examiner en elle-même, pour elle-même et pour ce qu'elle nous apprend, et pas seulement au regard de critères fixistes et isolationnistes qui masquent sous les spécificités des disciplines les prodiges communs de l'invention. Personnellement, donc, je mets sur le même plan la critique idéologique et morale du sujet obscur qui assimile Thérèse Raquin à la littérature putride et la critique contemporaine, sourcilleuse, qui discrédite le roman expérimental et la scientificité du naturalisme au profit d'on ne sait trop quelle définition de la littérature ou d'on ne sait trop quelle définition de la science. Le point de vue que je cherche à privilégier exige la compréhension, c'est tout, et pas seulement au sens intellectuel. Je ne vois pas ce que peut être l'œuvre de Zola indépendamment de son inscription dans l'histoire des sciences et de son adhésion au déterminisme. Donc je la questionne, mais je ne la remets pas en question.
Grand merci pour cette parole d'une fermeté et d'une intelligence tenante sur ce petit roman Thérèse Raquin qui en effet aujourd'hui bénéficie de deux belles éditions et qui va glisser dans nos bibliothèques après l'édition d'Henri Mitran historique. Cette deuxième édition GF. Merci infiniment et merci d'ailleurs tout simplement pour cet exemplier d'une grande richesse. Toutes les citations n'ont pas été lues, on pourra revenir en lisant ce texte, on pourra revenir sur cette conférence que tu viens de nous donner. Merci et au fond c'était une réflexion sur les sources, sources réelles, la fameuse Vénus de Gordes, dont tu montres que quelle que soit la proximité avec le roman de Zola, eh bien, évidemment, ce roman la dépasse, cette source, pour la transformer absolument, et que Zola conçoit ainsi cette vision du roman, la recomposition qui est la sienne et qui sera théorisée dans la formule du roman expérimental. Et puis, évidemment, ces sources parlent rétrolecture, c'est sur sa rebours qu'on peut aujourd'hui utiliser pour comprendre l'extraordinaire richesse de l'œuvre de Zola. Cette œuvre, c'est vrai, qui a vécu pendant tant d'années le destin d'une réception négative. Zola, c'était le médiocre, c'était celui qui n'avait rien compris, c'était celui qui livrait une littérature simple ou simpliste. Et nous avons la chance aujourd'hui, grâce à de telles lectures, la tienne et d'autres évidemment, de la chance de pouvoir mesurer toute la richesse de ces textes, hein, et de faire constamment revivre et constamment les porter dans l'actualité du monde d'aujourd'hui. Voilà, j'ouvre la discussion. Vous avez sûrement de nombreuses questions à poser à François Morin, bon, dont je rappelle, parce que tu évoquais tes élèves, que ces élèves, ce sont des cagneux. Ce sont des cagneux de Bordeaux, du grand lycée de Bordeaux dans lequel tu enseignes, et ils ont la chance de pouvoir, tout en suivant ces cours d'une grande densité qui sont ceux de la CAGNE, de pouvoir écouter tes commentaires.
Oui, et puis pour moi en plus, évidemment, j'ai choisi de travailler avec mon hippocagne Berzacain, vraiment préparer mon exposé. C'est aussi ça le roman expérimental, c'est que ça marche très très bien avec cette expérience pédagogique avec des étudiants attentifs, produit énormément de propositions de sens. Beaucoup de choses m'avaient échappé, que je n'ai pas pu reprendre dans mon exposé. C'est très très suggestif quand on a effectivement c'est un roman qui marche très bien. Et c'est en cela aussi qu'il est produit des expériences fécondes. C'est quand même l'expérience de la lecture, cette réinventation herméneutique qui est rendue possible, beaucoup plus avec Thérèse Raquin qu'avec évidemment, encore que la confession de Quiroz, de Madeleine Ferrat. Il y a encore tellement de choses à dire, Henri, parce que c'est vraiment, comment dirais-je, une chance pour nous d'avoir encore beaucoup de choses à dire sur ce roman. Et à la fin de mon exemplier, j'ai mis une très longue citation d'un texte que j'aime beaucoup de notre philosophe, sociologue, Simmel, hein, qui lui aussi parle de la vérité de l'œuvre d'art, qui rapproche un petit peu, qui relativise, évidemment, relativisme sous contrainte de rigueur, je dirais, comme le disent les philosophes analytiques, qui relativise aussi, qui montre hein, l'importance des relations, plutôt que d'interroger de manière un peu vulgaire, au fond, la science, hein, dans sa complexité. Dans ce texte-là, de philosophie, je le mobilise souvent pour expliquer la différence entre une œuvre d'art correcte et une imposture artistique, prétendument artistique, ou une œuvre médiocre. Parce que si ça marche, c'est que il y a quelque chose quand même qui relève, qui renvoie la vérité.
Je pourrais réintervenir, mais ce que je voudrais dire, c'est que votre exposé magistral m'a enchanté globalement. J'aurais des questions à poser éventuellement.
J'appréhendais un peu.
Mais je trouve là un extraordinaire exemple de ce que nous avons à faire, sans oublier évidemment ce qui peut se faire de nos jours dans des perspectives assez scientistes, que moi je trouverais presque lansonienne, qui consiste à parler beaucoup, à s'intéresser beaucoup aux entours de l'œuvre, à l'avant-œuvre, à quantité de choses qui font que on ose à peine entrer dans l'œuvre. Vous entrez de plein fouet dans l'œuvre et vous considérez que c'est vraiment l'essentiel de ce qu'il y a à faire au nom de la littérature ou de l'analyse littéraire. Et ça me paraît un modèle parfait, indépendamment de comme disait Alain, de l'extraordinaire talent, ne parlons pas seulement d'intelligence, mais de talent, à débusquer dans le texte toutes ces valeurs, comme dit très justement maintenant Cabanès, y compris les valeurs esthétiques, les valeurs de plaisir, les valeurs de jouissance qui s'emparent du lecteur quand il lit un livre comme ça. En même temps, comme le disait Alain, vous réhabilitez Thérèse Raquin par rapport à toute une critique académique hein, qui n'est certainement pas morte encore de nos jours. Tout ça, c'est vraiment enthousiasmant. Voilà, je vous laisse dire simplement tout ceci pour ouvrir, enfin, non pas ouvrir la discussion, mais pour préparer éventuellement d'autres interventions qui seraient alors sous la forme de questions. J'en pose une quand même tout de suite. Vous employez roman expérimental de deux manières, si j'ai bien compris. Vous dites Thérèse Raquin est un roman expérimental parce que il fait l'expérience en tant que roman de tout ce qui se passe finalement dans les profondeurs de l'univers des pulsions, comme vous dites, ou des fantasmes, etc. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais il y a aussi le sens roman expérimental qui fait, enfin, l'emploi du mot roman expérimental qui fait que, inévitablement, on est renvoyé au livre que Zola a publié sous le texte « Le roman expérimental ». Il me semble qu'il y a une différence, malgré tout ce que vous avez pu suggérer, il y a une différence essentielle entre le discours de Zola, sous-jacent, le discours dans Thérèse Raquin, enfin tout ce qui vous avez si joliment comme ça dégagé, déployé, sorti des profondeurs du texte, il y a une différence entre cette expérience que fait Zola en écrivant Thérèse Raquin et puis ce qu'il écrit quand il parle du roman expérimental et qui au fond est une paraphrase de Claude Bernard. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée que si nous employons maintenant la notion de roman expérimental, il faut définir par avance dans quel sens on la prend. Est-ce que je vais prendre est-ce que je vais prendre l'œuvre de 1880 ou bien est-ce que je m'intéresse aux aspects expérimentaux du roman de Zola, pas seulement Thérèse Raquin, mais d'autres. Alors ça implique probablement deux définitions de l'expérience. D'ailleurs, vous, pour définir l'expérience, vous allez chercher toute une série de référents, hein, depuis Hume jusqu'à Nelson Goodman, et en passant par d'autres, qu'au fond, vous ne nous avez pas parlé de Claude Bernard. Donc ça prouve qu'il y a quand même là quelque part un gap, hein, entre l'univers de pensée qui conduit Zola en 1880 à écrire cette série d'articles et puis l'univers d'imaginaire, hein, l'univers d'intuition fabuleuse qui est son propre capital psychique, si j'ose dire, lorsqu'il écrit Thérèse Raquin. J'exagère un peu la différence, mais je pense que pour des raisons de précaution méthodologique, il faudrait avancer d'entrée de jeu ce qu'est la polysémie de ce qu'on appelle maintenant, hein, cette étiquette roman expérimental. Bon, c'est une question.
Au début de dans mon exposé, à un moment, je dis oui, que cette expression, l'expression à laquelle il pense en 1867, c'est étude physiologique. Et ça, c'est vrai que c'est.
Voilà.
C'est pas ce qu'il y a de. C'est pas une expression particulièrement judicieuse. Enfin, elle est au regard du cadre des références, mais finalement. Et que le véritable roman expérimental, c'est plutôt Thérèse Raquin, que l'expression de roman expérimental convient mieux en 1867, puis Zola, il change, forcément, il change, il a évolué dans sa propre pratique. Le roman s'est étouffé, il est devenu roman historique. Le roman historique, évidemment, ça renvoie à notre cadre de référence. Et il essaie de rester fidèle à cette question qui est déjà posée du succès public, de tenir à ce. Tenir à sa formule, l'injonction polémique, et c'est un peu tard quand, effectivement, en 1919, il reprend cette formule qui convenait mieux avant, et il produit des romans qui ne coïncident pas avec son programme. Donc Zola a changé. Mais l'expression de roman expérimental, je la trouve particulièrement féconde, effectivement, pour Thérèse Raquin.
Oui.
Et plus réductrice.
Mais vous venez d'évoquer le roman historique. Est-ce qu'on peut dire que Thérèse Raquin est la démonstration que fait Zola, et c'est probablement un des rares à le faire à son époque, et au fond nous ne sommes pas nombreux à penser à ça en ce moment, à savoir que la fiction peut être un instrument d'approfondissement de la science, de la condition, enfin du discours, de la pensée et du discours scientifique. N'est-ce pas ? Je crois que c'est ça, c'est la démonstration qu'il fait, sans peut-être la formaliser, mais enfin, il a en tête probablement cette poussée d'imagination qui lui fait penser que en racontant une histoire, il fait avancer la science.
Oui, tous les grands.
Sophie Guermès vient de publier un livre intéressant aussi sur le rapport de la fiction à l'histoire. Hein, la fable documentaire Zola historien. Et, au fond, on comprend en la lisant que Zola a fait, par rapport à l'histoire, le même travail qu'il a fait par rapport à la science du biologique, du psychique, de l'inconscient, etc. C'est-à-dire qu'il écrit des fictions qui, en tant que fiction, apportent une connaissance supplémentaire d'ordre historique. Qui revient à renverser la problématique habituelle quand on essaie de comprendre quelle est la part de connaissance historique explicite qui interviennent dans la construction du roman. Lui, il fait l'inverse. Enfin, plutôt, en l'occurrence, le livre de Sophie Guermès fait l'inverse. Elle se demande qu'est-ce que la fiction, en tant que fiction, apporte à une compréhension de l'histoire ainsi référencée.
Les grands savants, ce sont les grands savants, ceux qui découvrent quelque chose, qui enseignent la communauté, la parenté entre tous les créateurs. C'est la différence entre une logique de l'invention et une logique de l'application. On a trop souvent tendance à rabattre le roman naturaliste et les prétentions scientifiques de Zola vers l'application. Alors qu'on néglige, à tort, sa capacité d'invention qui le rapproche de ce que, Baudelaire parle. Quand il fait son éloge de l'imagination, Baudelaire, la maîtresse des facultés, il dit c'est propre au grand homme politique qui a une vision, au grand savant qui fait une invention, au grand poète. Il élargit considérablement le cadre, et il lève le discrédit sur l'imagination pour faire comprendre qu'il y a une communauté. Voilà, c'est l'épistémologie de la. On ne sait pas comment formaliser l'invention. La plupart des scientifiques sont des expérimentateurs de laboratoire qui ne font que reproduire des protocoles. Mais rares sont ceux qui découvrent quelque chose. À quoi sert la recherche si ce n'est pas à découvrir quelque chose? Zola, il découvre des choses, c'est un grand créateur. Donc du coup, c'est par cela que le roman expérimental doit être crédité d'une véritable pertinence. Pas simplement dans la logique de la reproduction qui est trop souvent mobilisée pour évoquer la science.
Juste une seconde. Ajoutons que la valeur, en l'occurrence, c'est pas seulement une valeur heuristique, ou comment dire, mathésique, comme disait Barthes. Hein. Il ne s'agit pas d'apporter un savoir par le moyen de la fiction, mais c'est aussi une valeur de plaisir. Il faut faire jouir le lecteur, parce que sinon il n'y a pas de roman. Donc il n'y a pas de savoir.
Bien sûr, c'est la joie de la découverte.
Voilà.
C'est très sensible.
Pas seulement de la découverte, mais de l'écoute, du langage, de la phrase, des mots. Bon, j'arrête.
Non, mais ça va long.
Merci, Henri.
Non, c'était dire qu'il ne faut pas. Il me semble que le plaisir du texte, ou la jouissance dont on parle, elle est effectivement. Enfin, il me